or being thrown in at our roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi ? Une demi-heure pour vous parler de livres sur Radio Duo, des livres en tout genre, à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, comme d'habitude, on va donc chroniquer quelques bouquins et une fois n'est pas coutume, j'ai un invité qui viendra nous parler en fin d'émission d'un livre de son choix, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et c'est parti. Alors, c'est déjà la 11e émission de Qui ou quoi. Et même si personne ne me l'a jamais demandé, je vais vous expliquer d'où vient le nom de l'émission. Quand il s'est agi de choisir un nom pour l'émission, c'est rien de dire que j'ai galéré. Comme j'avais pas l'inspiration, j'ai demandé un peu autour de moi, et j'ai eu droit un peu à tout. Des jeux de mots un peu pourris, des la grande bibliothèque ou la bibliothèque 2, etc. Et même si j'en profite ici pour remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont fait des propositions, je n'ai vraiment rien trouvé de satisfaisant. Bref, un jour que j'étais chez moi, j'ai demandé à mon plus jeune fils d'aller me chercher un livre dans la bibliothèque sans rien lui dire de plus. Sauf que pour moi, le titre du livre qu'il allait rapporter, ce serait le titre de l'émission. Et il est revenu avec le livre « Qui ou quoi » de Martine Perrin, un super livre pour l'enfant, et j'ai trouvé ça parfait, parce qu'en vrai, entre le moment où je lui ai demandé d'aller chercher n'importe quel livre et le moment où il est revenu, je me suis dit « Ouh là 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 là, s'il revient avec « Comment chier dans les bois » ou « Le guide du jardin bio », mon plan va pas être si parfait que ça. » Donc, ça s'est bien passé, tant mieux. Mais depuis que j'ai commencé l'émission, je sais que je vais être obligé de vous parler de « Comment chier dans les bois » et vous l'aurez donc compris, c'est ce soir. Comment chier dans les bois de Kathleen Meyer. Donc, déjà, première chose, comment on peut acheter un tel livre ? Parce que je me suis jamais vraiment posé la question de comment je faisais caca en randonnée. Donc de là à acheter un livre qui faisait office de mode d'emploi, je vous avoue qu'il y a tout un monde. En fait, c'est un ami à moi qui a trouvé le titre tellement rigolo que ça lui a suffi pour qu'il me l'achète. J'ai jamais creusé plus loin, mais aujourd'hui où je vous en parle, je crois qu'il faudrait que je lui demande de développer un peu plus le pourquoi de cet achat. Ce livre, donc, « Comment chier dans les bois », n'avance pas masqué. C'est un documentaire qui, comme son titre l'indique, nous propose de nous apprendre à faire caca dans les taillis sous futaie et autres garrigues du monde entier. En fait, ce livre, sous son titre rigolo, c'est non seulement un best-seller, mais c'est surtout un livre très sérieux qui fait un peu office de référence dans le milieu des amoureux de la nature. Ça faisait des années qu'il était dans ma bibliothèque, et donc pour l'émission, je l'ai enfin lu et je vais vous en exposer les grandes lignes et essayer de vous donner envie de le lire, parce que sans être le livre du siècle, le sujet est important et donne particulièrement à réfléchir. En fait, ce livre, c'est une réflexion tout ce qu'il y a de plus sérieuse sur l'impact de l'homme sur la nature. Alors bien sûr, on parle souvent de réchauffement climatique, de pollution des usines, mais en fait, le constat est simple, tous les cacas et les pipis faits dans la nature l'ont aujourd'hui irrémédiablement abîmé. Et ce livre nous propose des solutions pour y remédier. « Passé la première partie dans laquelle l'auteur nous expose à quel point il a été compliqué pour elle de trouver le bon ton, en gros, elle a dû choisir entre utiliser déféquer, qui est un peu trop sérieux, et chier, qui est plus accessible. Et bien donc, passé cette première partie, elle justifie sa démarche à grands coups d'anecdotes qui, il faut bien l'avouer, sont bien rigolotes. Mention spéciale à cette anecdote qui m'a fait rire tout seul pendant bien un quart d'heure et que je ne peux pas m'empêcher de vous lire. Alors, c'est l'histoire de Edwin, un chasseur américain, donc, qui est en train de chasser. Edwin accrocha son fusil, releva son poncho et défit ses bretelles. En sifflotant, il s'assit et chia. Et lorsqu'il se retourna en se relevant, pas une trace n'était visible. Incroyable ! Dans une demi-surprise, Edwin scruta à nouveau la souche sans rien découvrir de plus. Avec le retour de la pluie, la pensée du camp confortable qui l'attendait sonna pour lui la décision du retour. Il repositionna son poncho et reprit son fusil. Pour se réchauffer les oreilles, il remit enfin sa capuche, et elle était là, sur son crâne, fondant sous la pluie comme glace au soleil. Donc, c'est vrai que celle-là m'a particulièrement fait rigoler, d'imaginer un chasseur qui se chie sur la tête, ça, je sais pas pourquoi, ça m'a... Enfin bon, voilà. Tout seul dans le studio, aujourd'hui, bon, bah, ça me fait encore rire, mais c'est pas pareil. Bref, au final, à force d'anecdotes, ce livre de technique pour faire caca ne semble plus si incongru. Et vient donc ensuite l'exposé des techniques de base qui sont donc de faire un trou ou de comment s'essuyer. Et c'est après tout ça que ça devient encore plus intéressant et radical, même si moi personnellement, j'étais déjà complètement chamboulé parce que je n'ai jamais creusé de trou dans la nature. En fait, dans le livre, Kathleen Meyer explique qu'il s'avère que toutes les autres surfaces du monde entier sont aujourd'hui contaminées par un virus qui s'appelle la Giardia. Je dis bien toutes. Et en fait, ce truc assez peu ragoûtant, qui est en fait une grosse chiasse à base de kyste, s'est retrouvé dans toutes les rivières et tous les lacs du monde à cause des randonneurs de plus en plus nombreux qui font caca et pipi n'importe comment. Le truc est parti de Russie, apparemment, après la Seconde Guerre mondiale, mais Poutine n'y est pour rien. Et en fait, dans la foulée de la Giardia, ce qui commence à poindre, c'est la bilariose, une autre maladie qui est 10 fois pire et qui gagne aussi du terrain via le caca des randonneurs du monde entier. Tout ça est un peu flippant. Résultat, et c'est là qu'on rentre dans le radical façon Kathleen Meyer, c'est qu'elle nous explique qu'il faut tout récupérer pour pouvoir le traiter correctement et garder la nature propre. Donc, personnellement, ça a été assez difficile à appréhender. Parce que ça sous-entend que quand on fait une rando, en fait, on emporte tout. Elle appelle ça d'ailleurs le technique du remporter tout. C'est... Je me perds dans mes notes. En fait, aux États-Unis, apparemment, cette technique du remporter tout est assez répandue. Et donc, dans la moitié du livre, elle expose différentes techniques sur comment chier dans un récipient et elle rapporte aussi des tests sur des boîtes censées enfermer le caca pendant toute une randonnée sur une semaine, sachant que par exemple, s'il fait chaud, le caca produit du méthane et peut faire sauter le bouchon et répandre tout son contenu dans un sac à dos. Bref, au final, toutes ces techniques et tout ça, c'est que de l'amour et que du bonheur. En fait, le seul écueil de ce livre, qui est quand même, c'est qu'il est trop lié aux États-Unis. Tous les tests de matériaux, tout l'environnement dans lequel ils sont testés sont des trucs américains qui sont introuvables aujourd'hui chez Gosport. Et en fait, ce qui reste, c'est que faire caca dans les bois, c'est pas anodin, et que il faut absolument réfléchir à ce qu'on en fait. Ouais. Et que c'est pas anodin. Et donc je vous encourage vraiment à le lire, Comment chier dans les bois de Kathleen Meyer, pour savoir quoi en faire. Donc moi qui me moquais il y a pas si longtemps que ça de Thomas Pesquet qui a rapporté son caca de l'espace dans une poche, il reste plus qu'à ce que je regarde Mad Max 3 après la émission et je pense qu'on aura fait le tour du sujet. Donc en attendant, de regarder Mad Max 3. On va faire une petite pause et j'en ai bien besoin. On va s'écouter un petit morceau de rap de Nipsey Hussle qui s'appelle Last Time That I Check. Last time that I checked, it was 5 chains on my neck. It was no smut on my rep. Last time that I checked, I was selling zones in the set. Make a quarter mil, no sweat. Last time that I checked, I'm the streets voice out west. Legendary self-made progress. Last time that I checked, first you get the money, then respect, then the power and the hoes come next. Last time that I checked, I've been self-made from the dribble. I was been saying I'm a killer. Playing no games with you niggas. Pop clutch, switch lanes on you niggas. I laid down the game for you niggas. Taught you how to charge more than what they paid for you niggas. On the whole thing for you niggas. Reinvest, double up, then explain for you niggas. It gotta be love. Run the city, it gotta be cut. Just for the pieces I took off the Monopoly board. Hey, y'all niggas false claims, it gotta be fraud. Just keep the hood up out your mouth and you gotta be charged. I doubled up, tripled up, nigga what? Banged on the whole game, I ain't give a fuck. Nobody trippin', had no business, got my digits up. And when I drop, you know I'm about to fuck. Last time that I checked, it was 5 chains on my neck. It was no smut on my rep. Last time that I checked, I was selling zones in the set. Make a quarter mil, no sweat. Last time that I checked, I'm the streets voice out west. Legendary self-made progress. Last time that I checked, first you get the money, then respect, then the power and the hoes come next. Last time that I checked, come through fly check. No cosign, I ain't need radio to do mine. I done fine and I take my time and take my tribe. Every level that I crossed in this game like state lines, it was visionary. Either I'm genius or you niggas scared. Maybe it's both in this balance I deliver daily. For every nigga in these streets trying to feed the babies. The single mama's working hard not to miss a payment. And dirty money get washed on royalty statements. Black owners in this game are powerful racists. Young niggas in the set just doing it makeshift out the garage. It's how you end up in charge. It's how you end up in penthouses. End up in cars. It's how you start off a curb server. End up a boss. It's how you win the whole thing and lift up a cigar with sweat dripping down your face. Cause the mission was last hard. Last time that I checked, it was 5 chains on my neck. It was no smut on my rep. Last time that I checked, I was selling zones in the set. Make a quarter mil, no sweat. Last time that I checked, I'm the streets voice out west. Legendary self-made progress. Last time that I checked, first you get the money, then respect, then the power and the hoes come next. Last time that I checked,
I got the front and in the back. We on the way and that's a fact. This real, this ain't rap. Where everybody wanna act pro-black. The last lie you heard, this ain't that. This, that, I didn't. Made it out the gutter shit. Nip told you fuck the middle man. I told you fuck a bitch. Fuck wearing they clothes, I wear my own shit. Y'all can own y'all label, I own my own bitch. Hey, Mill, I remember all that game you throw me. Don't fuck around and get played by the label owners. Talk that shit to these niggas, Adrian Broner. But secure the window, don't let the game fold ya. Cause when this game over, it's really game over. And all they do is play the game till this game over. And you be giving game like a big brother mission. Never let them take it from us.
Last time that I checked, it was 5 chains on my neck. It was no smut on my rep. Last time that I checked, I was selling zones in the set. Make a quarter mil, no sweat. Last time that I checked, I'm the streets voice out west. Legendary self-made progress. Last time that I checked, first you get the money, then respect, then the power and the hoes come next. Last time that I checked.
De retour sur Radio Dio, c'était donc Nipsey Hussle avec Last Time That I Check. Le second livre dont je vais vous parler, je l'ai acheté à Forum pour les Stéphanois la semaine dernière. Ça fait plusieurs semaines qu'il me faisait de l'œil, dans son fourreau de luxe, ou presque. C'est Nanarland, le livre des films, des mauvais films sympathiques, épisode 1. Nanarland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout un site internet qui chronique et qui critique toutes les pires bouses filmées de la Terre. Le slogan du site étant « Le pire n'est jamais décevant ». Alors bien sûr, Il faut aimer perdre son temps devant des films pourris de Steven Seagal ou de Jean Rollin. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ni comment on développe de l'intérêt pour ces films. Et pourtant, je suis concerné. Parce que j'aime les films pourris. Les blockbusters sans intérêt, les films à petit budget avec des décors en mousse, des trucs comme ça, quoi. Je me souviens assez bien, d'ailleurs, de ces films d'horreur mal torchés que sont Killer Crocodile, avec ses scènes mal traduites et son crocodile en mousse et son chasseur au charisme indéfinissable, ou encore The Mangler, réalisé par Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse pourtant, et avec Robert Englund, l'acteur qui joue Freddy, et qui raconte l'histoire d'une lessiveuse hantée. Et oui, on parle bien là d'une lessiveuse, c'est-à-dire une machine à laver le linge industriel qui tue les gens, le tout dans une version française plus qu'approximative. Bref, ces films ont largement compté dans ma cinéphilie, mais je me demande vraiment en quoi. Ils sont chiants, mal fichus, des fois drôles, mais la plupart du temps, c'est une perte de temps hallucinante. En tout cas, aujourd'hui, malgré tout, quand on me raconte un film pourri, j'ai toujours envie de le voir. Et ben là, je suis servi avec Nanarland, le livre. Ce n'est que ça. Nanarland, le livre des mauvais films sympathiques, c'est donc une cinquantaine de critiques de films regroupées par thématiques, avec par exemple les figures totémiques qui sont les classiques de Nanarland. Dans cette section, il parle en particulier d'un film que moi j'apprécie, même s'il correspond exactement à ce que je viens de dire, qui s'appelle The Turkish Star Wars, qui est un film hallucinant. Un film turc hallucinant qui utilise des stock shots de Star Wars pour mener une histoire incompréhensible d'extraterrestres et de génies du mal, le tout dans un truc, dans des décors avec des cailloux en mousse hallucinants de nullité. Vraiment, de toute façon, le film est hallucinant de nullité à tous les niveaux, mais c'est un peu l'étalon du film de Nanarland. Autre exemple de section dans le livre, version originale qui regroupe des remakes non officiels tel Titanic 2 ou Robowar, qui est un remake de Robocop. Il y a aussi une section qui dit « Des petits pouvoirs impliquent de petites responsabilités ». Là, on parle de films de super-héros super cheap comme Super Inframan ou L'Homme Puma, etc., etc. Pour chaque film, en fait, on a la jaquette du film, parce que l'immense majorité de ces films n'est sortie qu'en VHS. Il y a un résumé, une critique de film, il y a aussi la meilleure réplique, une rubrique fun fact et des pistes pour en voir d'autres dans le même style, un peu comme la lecture automatique de YouTube, quoi. S'ajoute à ça un encart sur tel acteur ou tel réalisateur qui a participé au film. Bref, ça rigole pas niveau contenu. L'objet aussi, il est pas mal. Pour le coup, le livre est présenté dans un fourreau de luxe, comme j'ai dit en présentation, avec une fausse jaquette de film pourri. La couverture du livre est en elle une reproduction de VHS, donc le livre se présente comme une cassette VHS, parce qu'en fait, et c'est vrai, je le pense aussi, tout vient de là. L'immense majorité de ces films pourris ont été découverts par des gens nés à peu près dans les années 80, via des cassettes de vidéoclub, d'où l'espèce de fétichisme qui est lié à l'objet cassette. Donc on pouvait les trouver dans les vidéoclubs, mais aussi dans les grandes surfaces, qui proposaient ces films sous des jaquettes racoleuses et ou intrigantes. Mais bon, en fait justement, c'est là que le bas blesse pour le coup. Autant je trouve que le livre a de l'intérêt, mais dans la façon de présenter les informations et les choses, c'est là que je trouve qu'il y a un petit bémol à apporter, parce que tout l'habillage du livre, il est comme ça. Il est vintage en mode second degré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui reconnaît une VHS à part quelqu'un qui a grandi dans les années 80 et toutes les VHS sont passées à la poubelle. Et chaque page, autre élément, par exemple, chaque page du livre est traitée visuellement comme s'il était abîmé. Donc acheter un livre qui a été travaillé pour faire comme s'il était abîmé et qu'il avait traîné dans un vidéoclub, je sais pas si c'est très intéressant. Et même si je trouve que ces films, ils sont effectivement abîmés aussi à bien des égards, ils méritent plus que ce second degré. Tant qu'à faire un livre, autant les traiter comme les autres, parce que ce sont des films qui ont fait partie de l'histoire du cinéma comme les autres. D'ailleurs, au niveau de la critique aussi, les critiques se veulent toujours un peu drôles et pas, elles ne sont jamais avares d'un bon mot. pour justement un peu tourner en dérision les trucs. On reste un peu dans la gaudriole, et même si c'est fait avec beaucoup de tendresse, ça reste un point faible de Narlarland, et ça c'était déjà au niveau du site. Et comme en fait ce livre est un condensé du site, ben malheureusement ils n'ont pas changé. Mais ça reste quand même intéressant, d'ailleurs c'est tellement un succès qu'il y a un Narlarland 2 qui est sorti, avec une cinquantaine de films là aussi. Mais bon, là moi je vous ai parlé que du 1, je voulais vous lire un petit peu des extraits. Par exemple, le livre sur le, il y a une citation, parce qu'en fait tous ces films sont des nids de répliques, et il y a une réplique sur le fourreau, et c'est écrit le requin tigre que nous recherchons est un maniaque. Donc voilà, tout est dit. Voilà. On va s'écouter un second morceau après cette présentation de Narlarland. Cette fois, ça va être Turbo Negro avec Rock'n'Roll Machine Part 3, je crois. Je crois que c'est ça le titre. Voilà. Donc tout de suite, Turbo Negro.
Human being,
c'était donc Turbo Negro avec Rock'n'Roll Machine. On en arrive à donc la troisième partie de cette émission, le troisième livre dont on va parler, avec ce soir donc un invité, une fois n'est pas coutume, Vincent Jean-Yves, artiste stéphanois, qui va venir nous parler de son choix, d'un livre de son choix. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Axel.
Avec sa voix suave.
Bah, j'ai intérêt, hein, vu le livre que je vais présenter.
Donc Vincent, à qui je vais laisser la parole, qui a lui aussi été un peu biberonné, je crois, au film pourri, au film de Jean Rollin en l'occurrence. Je sais que j'ai déjà partagé avec lui sur un de ses films, mais Nanarland c'était avant, maintenant ça va être Skin Party.
C'est ça.
Et donc, c'est à toi, Vincent.
Merci, Axel. Alors, comment commencer ? Je vais demander à nos amis auditeurs de bien fermer les yeux et de compter jusqu'à 3. Au bout de 3 secondes, je vais relever un défi. Je vais tenter, par ma seule parole, de donner envie à vous, amis auditeurs, de lire une bande dessinée sortie en 2011. J'ai nommé Skin Party de Timothée Le Boucher. Pourquoi parler de Skin Party ? D'abord, qu'est-ce qu'une Skin Party ? Une Skin Party, d'après ce que j'ai compris il y a une dizaine d'années, se définissait comme une soirée no limites. Vous étiez censé vous lâcher, boire, baiser, fumer et prendre tout un tas de drogues. Le phénomène des skin parties est en partie inspiré d'une série qui s'appelle Skin. Une série télévisée anglaise, un poil déjantée, il paraît. Je ne l'ai pas vue. La nouveauté et la différence avec d'autres soirées, c'était que dans l'organisation, vous étiez prévenu via les réseaux sociaux. Mais parlons du sujet de ce soir, Skin Party. Avant tout, la couverture, qui m'a fait complètement flasher. L'auteur a fait un très gros plan sur la tête d'un skinner portant des lunettes de soleil. Une femme lui lèche l'oreille et me regarde avec un œil provoquant. Dans le reflet des lunettes, des personnes dansent. L'un d'eux porte une tête de cochon. Le même personnage que l'on retrouve en quatrième de couverture et aussi à travers l'histoire. Il est écrit d'ailleurs sur cette quatrième de couverture « More sex, more drinks and more freedom ». Les tons vert et rose prédominent sur cette couverture, des choix chromatiques que je juge audacieux, qui suggèrent de subtils jeux de lumière et installent une ambiance étrange, voire malsaine. Choix chromatiques hallucinogènes qui sont à la limite de l'overdose, qui se répète tout au long de la bande dessinée et qui renvoie à une iconographie empreinte aux années 80. Pour preuve, le titre Skin Party en rose fluo. Je vais parler aussi du dessin, qui se veut d'une grande sobriété. Monsieur Le Boucher fait partie de ces dessinateurs qui crayonnent, puis scannent et finalisent tout à la palette graphique. Le dessin est assez froid, figé, presque naïf dans les traits. On sent une vague influence dans les mangas. Le trait sans fioriture, d'une épaisseur constante, me rappelle un auteur comme Comès. Un trait qui sert totalement le propos de l'histoire. Justement, l'histoire, qu'en est-il ? Revenons d'abord sur la genèse de ce projet. Nous sommes en 2010. Timothée Le Boucher a alors 22 ans. Il est en vacances à Saint-Tropez. Un coup de fil le sort de sa torpeur estivale. Manolo Sanctis, son éditeur, vient de l'appeler. À noter que Timothée a déjà publié chez ce même éditeur Extase, dans le recueil Fantasme, parrainé par une certaine Pénélope Bagieu. Il écrit trois scénarios. Un seul retiendra l'attention, c'est Skin Party. L'auteur déclarera dans une interview qu'il n'a jamais participé à une Skin Party, mais qu'en revanche, il a fait plein de soirées dans le même genre. Ce qui l'intéresse, c'est le côté no limit, vulgaire, enfant et costumé de ces soirées. Dans l'histoire de Timothée le Boucher, nous avons plusieurs personnages. Ève, Alexandre, Marion, Antoine, Bastien. Tous se retrouvent à une skin party organisée dans une villa. La fête va rapidement dégénérer. Une narration audacieuse qui se découpe en plusieurs petites histoires. Chacune adoptant le point de vue d'un ou une protagoniste. La somme de ces histoires livre au lecteur le dénouement. Notons que Timothée profite de la trame pour aborder un grand nombre de sujets, comme le viol, l'inceste, l'homicide, l'homosexualité, sans jamais tomber dans la caricature. Tout en retenue, il nous dépeint des personnages avec beaucoup de psychologie. J'apprends par l'intermédiaire de nos téléscripteurs que Timothée le Boucher a reçu le prix des libraires au Festival d'Angoulême pour son dernier album en 2017. Nous sommes en 2018. Dernier album qui s'appelle « Ces jours qui disparaissent » paru chez Glénat. Je ne l'ai pas encore lu, mais sachez que j'économise pour me l'acheter. Car une nouvelle fois, je sens que Monsieur le Boucher va nous surprendre. Amis auditeurs, je me dois de vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il est temps de rendre l'antenne.
Merci Vincent pour cette chronique de Skin Party. On a parlé donc, j'ai un peu de mal à m'en remettre, parce que pour moi le téléscripteur ne marche pas, mais bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui on a parlé de trois livres, on a parlé de Comment chier dans les bois de Kathleen Meyer, on a parlé de Nanarland, le livre des mauvais films sympathiques, et de Skin Party, c'est un ouvrage collectif, le Nanarland, et Skin Party de Timothée le Boucher. Une BD qui est encore disponible, je crois, grâce à Vincent. Donc, merci Vincent. C'était donc la 11e de Qui ou Quoi. On se retrouve dans 2 semaines avec 3 autres livres. En attendant, lisez bien. Lisez dur, lisez mou, mais lisez dans le trou. Et puis, bonne soirée. Thank you.
raison de la réflexion. Pousse le son, faut que ça se crâne. La tactique là, c'est le max crâne. Qui bouge tout seul, on a l'as qui gagne. Sur le plastique, ça sous 4 grammes. J'ai la face qui claque comme du bassiste d'as. Comme du plastique, ça c'est classique là. Pas de basique, même on est pas si sale. Je passe l'examen, c'est classique man. Même en slam, même en slam. J'ai la face, la gaz à la place. Pour mes gars, on déplace la gamme. On s'éclate et le roi, on y casse la patte. Dans la base, c'est la carte qui te claque la patte.
Allez, veulent, on fait le truc, on fait pas ce qu'ils veulent. Du rap en cable, on écrase des gueules, on embrasse des feuilles. La merde, on fait deuil. High level, on fait le truc, on fait pas ce qu'ils veulent. Du rap en cable, on écrase des gueules, on embrasse des feuilles. La merde, on fait deuil. High level, on fait le truc, on fait pas ce qu'ils veulent. Du rap en cable, on écrase des gueules, on embrasse des feuilles. La merde, on fait deuil.